Bien, nous allons commencer. Merci de vous asseoir rapidement. Il reste aussi des places à l'avant de la salle. Mais bon, ce sont toujours celles qui se remplissent en dernier, bien sûr. J'avais dans l'idée que je m'assiérais à cette table. Ça va être un peu compliqué, mais je vais faire comme ça avec le chevalet. Bon, je m'appelle Jean-François Cerisier et voilà quelques années, 7 en fait, qu'avec l'équipe du département ingénierie des médias pour l'éducation, nous organisons un campus européen d'été. Alors il ne s'est pas toujours appelé campus européen d'été, mais peu importe s'agissant de la dénomination. Et c'est une manifestation que nous avons toujours organisée en collaboration avec des partenaires fidèles et actifs, deux partenaires fidèles et actifs historiques de cette manifestation, le CEPEC de Lyon et l'espace Mendès France dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Cette année, la taille, si je peux dire, de la table ronde d'ouverture témoigne d'une ouverture plus grande à la collaboration. Et c'est bien plus que ça, puisque l'université d'été ou le campus d'été du département IME et de ses partenaires est devenu le campus d'été de la Cité des Savoirs. Je vais en dire peu, puisque Muriel Brunet, qui prendra la parole tout à l'heure, en dira bien plus sur la Cité des Savoirs. Mais vous dire, juste pour que vous compreniez mon propos introductif et pour propos qui est destiné à simplifier ensuite la table ronde d'ouverture, sachez simplement, dans un premier temps, que la Cité des Savoirs, c'est un cluster de structures qui se trouvent installées dans notre territoire régional et qui toutes œuvrent dans le domaine du e-learning. Elles ne font pas que cela, mais elles ont une activité importante dans ce domaine et travaillent ensemble. Et une des premières réussites, en quelque sorte, de cette collaboration, eh bien, c'est ce campus d'été qui s'ouvre aujourd'hui. J'ajoute, pour faire rapidement un petit tour de piste des partenaires, bien sûr, qu'au-delà des partenaires qui organisent, il y a ceux qui soutiennent et qui financent. Et je vais en citer deux, c'est le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche. Alors il sera bien sûr tout à l'heure cité aussi par Hervé Sabourin, vice-président de l'université, mais je le dis pour planter le décor. Et puis le consortium européen Euromim, qui est un consortium qui organise l'enseignement et de la recherche et qui est largement représenté parmi nous ce matin. Moi, mon rôle avant l'ouverture officielle, c'est plutôt de cadrer la thématique très rapidement pour permettre à chacun ensuite de s'inscrire dans la présentation, dans sa propre appropriation de cette thématique. La thématique générale de ce campus, chaque année, est simple, c'est toujours la même. Il s'agit d'explorer les nouveaux usages des technologies numériques pour l'éducation. Alors l'éducation au sens le plus large qui soit. Et chaque année, l'approche est plus spécifique et il faut bien dire qu'elle a quelque chose d'opportuniste, c'est-à-dire que nous essayons de saisir des éléments d'actualité pour devenir le point d'entrée de notre réflexion critique, si possible, sur ces usages éducatifs des technologies. Donc l'an dernier, pour ceux qui ont participé au campus, et ils sont quelques-uns dans cette salle, le thème était les serious games, les jeux sérieux, et cette année, nous allons traiter des apprentissages mobiles, ou plutôt de la mobilité dans l'apprentissage permise par ces tablettes que l'on voit fleurir dans tous les catalogues, tous les magasins, et ces smartphones que l'on voit au moins tout autant fleurir dans toutes vos poches, j'imagine. Je ne vais pas faire de sondage, mais j'imagine que vous êtes nombreux à en avoir. Cette thématique, elle implique une mobilité, elle traite de la mobilité, et elle implique aussi la mobilité, ou elle explique la mobilité que nous allons, qui est constitutive de cette semaine, c'est-à-dire vous allez être mobile, pas trop dans l'heure qui vient, mais dans les jours qui viennent, puisque nous allons avoir une manifestation itinérante, où nous allons chaque jour changer de lieu pour travailler dans les lieux propres à chacun des partenaires qui organisent la manifestation. Et puis, on ne pouvait pas faire autrement que d'utiliser nous-mêmes tablettes et smartphones pour cette manifestation. Et cette semaine peut être suivie, on peut y participer, vous le savez, mais vous êtes là, c'est bien. On peut y participer à distance et j'en profite bien sûr pour saluer ceux qui nous voient et qui nous écoutent au travers de notre application, l'application que nous avons développée pour ce faire. Quelles sont les questions qui ont guidé l'organisation de la semaine au-delà de cette thématique d'apprentissage mobile? Il y en a deux catégories, il y a deux catégories, il y a les simples, je vais passer rapidement sur ces questions, et puis les un petit peu plus complexes, dont je vais vous donner un aperçu, mais seulement un aperçu, évidemment, la semaine va permettre d'approfondir tout cela. Les simples sont les suivantes. Quelles sont les technologies disponibles pour la mobilité et quelles sont leurs possibilités? Je tourne la page. Quelles sont les expériences déjà réalisées? Puisqu'on parle beaucoup d'apprentissage mobile, de smartphones et de tablettes, mais quelle est la réalité des pratiques professionnelles dans ce domaine? Comment ces projets ont-ils été organisés? Avec quels outils? Quels sont les modèles qui ont été mobilisés pour les concevoir et les développer? Quelle, finalement, ingénierie pédagogique ou technopédagogique a été retenue, si elle existe, spécifique à la mobilité? Quelle évaluation peut-on faire des résultats? Est-ce qu'on apprend mieux, plus vite, moins cher? Qu'en disent les usagers? Ça, c'est important. On a une fâcheuse tendance à projeter sur eux ce qui nous semble bon pour eux et oublier de les interroger directement. Quel est le modèle économique ou quels sont les modèles économiques de l'apprentissage mobile? Est-ce que c'est économique? Est-ce qu'il y a un modèle économique? Ça, ce sont les questions simples. Et les questions plus complexes, de mon point de vue, tiennent vraiment au fond des enjeux de l'apprentissage mobile. Si on fait un petit parallèle entre formation, disons, classique, traditionnelle, et formation mobile, des questions apparaissent. Alors, comment peut-on, en deux mots, puisque je n'ai que deux mots à dire, caractériser la formation ancienne? Eh bien, on peut reprendre cette métaphore très utilisée, voire un peu usée, mais très pertinente, qui est celle du théâtre classique. La forme classique de la formation, c'est un seul lieu, un seul temps et une seule activité. C'est l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action. L'enseignement à distance, c'est tout de suite saisi des outils de communication, la poste par exemple, mais pas seulement, pour rompre ces unités, en particulier l'unité d'espace. On citait, peut-être qu'on cite moins aujourd'hui, mais on citait toujours, s'agissant d'enseignement à distance, l'exemple de la scolarisation des enfants des fermes du bush australien, où les distances sont telles qu'il n'est guère possible de se rendre à l'école primaire, et avec ces apprentissages accompagné à distance, régulé par radio, par des enseignants se trouvant à plusieurs milliers de kilomètres, et avec des enseignants rendant parfois visite à leurs élèves en se déplaçant jusqu'à eux, et non pas le contraire, en avion. Donc voilà une illustration déjà d'une certaine forme de mobilité. Mais aujourd'hui, ça n'est pas de cette mobilité-là que l'on parle. On parle d'une mobilité où les apprenants, comme les enseignants, peuvent être, lorsqu'ils enseignent et apprennent, n'importe où et n'importe quand. Alors, le n'importe est un peu exagéré. Évidemment, c'est un où choisi et un quand choisi, mais il y a une rupture complète de ces unités de temps et d'espace. On peut, bien sûr, on lit souvent, on entend souvent parler des bienfaits, des vertus, des promesses, d'où le titre de notre semaine, des promesses de cet apprentissage nomade. Bien sûr que les promesses sont grandes, les attentes sont fortes, les besoins aussi sans doute, et on peut imaginer très positivement combien il est utile de pouvoir apprendre quand on peut et où on peut et juste à temps. On peut aussi, et je terminerai avec ce propos-là, on peut aussi immédiatement penser aux nouvelles contraintes qu'apporte cet enseignement mobile, cet apprentissage mobile sur la vie de chacun, et je vous laisse imaginer toutes ces contraintes. Je termine avec un paradoxe qui me semble assez intéressant et peut-être aussi un peu amusant, et qui consiste à se demander si ces technologies de la mobilité ne sont pas aussi des technologies de l'immobilité. Je m'explique. Apprendre, c'est bouger, c'est se déplacer cognitivement, c'est se mettre en porte-à-faux, c'est se décaler. Et se déplacer jusqu'à un lieu de formation est un acte qui, bien évidemment, est très favorable aux apprentissages. Parce qu'en se déplaçant dans un lieu de formation, on se met aussi en situation d'être celui qui apprend et donc d'apprendre. Et on met à distance, on se met à distance et on met à distance l'objet de sa formation. Les technologies dont nous allons parler toute la semaine viennent en rupture de cette situation et peut-être nous condamnent-elles à rester immobiles dans notre formation. Alors le mot condamné est un peu fort parce que je pense qu'il pose ce mot la question centrale, la question la plus importante, et qui est celle de quelles activités d'apprentissage va-t-on proposer ou propose-t-on dans le cadre des apprentissages mobiles qui permettent justement, alors que l'étudiant, l'apprenant reste d'une certaine façon immobile, qui lui permettent à cet apprenti, à cet élève, à cet étudiant, d'être mis en mouvement pour que ces apprentissages restent très efficaces. Voilà les questions qui ont guidé l'organisation de la semaine. Cette semaine vous sera présentée dans son organisation plus en détail après la table ronde d'ouverture. Et je vais donner immédiatement la parole à Muriel Brunet, directrice de la Cité des Savoirs, qui organise cette semaine de campus européen d'été.
Merci Jean-François. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui sont présents, bienvenue à ceux qui nous écoutent à distance. Voilà, la Cité des Savoirs a voulu s'impliquer effectivement fortement cette année dans l'organisation de cette manifestation parce que ça correspond complètement à une de nos missions. Alors la Cité des Savoirs, c'est quoi ? C'est un pôle de référence innovant sur les domaines du e-learning, du blended learning pardon, et des serious games. C'est aussi un acteur majeur du développement de la filière de l'économie numérique qui est là pour favoriser son rayonnement au niveau régional, national et international. La Cité des Savoirs, c'est le regroupement de l'Université de Poitiers, du CNED, du CNAM, du CNDP, de l'ESEN, et soutenus dans leurs activités par le Conseil général de la Vienne. J'en profite pour saluer mon président, Monsieur Collin, qui est là avec nous aujourd'hui. C'est aussi le Grand Poitiers qui s'investit dans cette démarche, la communauté d'agglomération du pays de Châtellerault, et la Fondation pour la prospective et l'innovation. La Cité des Savoirs a trois missions, je dirais, principales. La première, c'est favoriser la recherche et l'innovation. Il y a déjà un réseau, qui s'est constitué entre les membres de la Cité des Savoirs, mais qui va, de plus en plus s'ouvrir et s'élargir. Le but étant de favoriser les expérimentations, les projets de recherche transverse entre tous, les industriels et les scientifiques du secteur. Cet axe s'est déjà concrétisé par la création d'un Living Lab qui a eu le label européen cette année, qui s'appelle WOLF, donc Ways of Learning for the Future, et qui va aussi lancer ses premiers projets et expérimentations d'ici quelques mois. Un autre axe, c'est, agir pour l'attractivité et le développement, au plan régional, national, européen, de la filière économie de la connaissance. Et c'est vraiment dans cet axe-là qu'on se trouve aujourd'hui, c'est favoriser le partage, le transfert de compétences, d'expériences, de connaissances, diffuser, faire savoir, favoriser tous ces axes qui vont permettre la mise en réseau des acteurs de la filière. Et le troisième axe, c'est un axe plus lié au développement économique. Cette année, la Cité des Savoirs a un partenariat fort avec France Cluster et va les accompagner. Donc France Cluster est une association qui regroupe, à peu près 120 clusters au niveau national. Et la Cité des Savoirs va les accompagner pour essayer de répondre à des problématiques de recrutement, d'adaptation aux postes de travail et de formation, notamment sur des filières d'excellence. Voilà. Avant de déclarer ouverte, puisque Jean-François m'a demandé d'être très officiel et d'ouvrir cette semaine, donc avant de déclarer ouverte cette semaine sur le thème de l'apprentissage nomade, je voudrais vraiment saluer tout le travail de l'équipe qui a organisé cette semaine, qui s'est vraiment investi pendant plusieurs mois pour créer cet événement. Alors merci, parce que j'en ai pas fait le quart de la moitié de ce que vous avez fait. Voilà, je vous souhaite pendant cette semaine de prendre, vous savez, un bon bol d'air. C'est Françoise Levésu à côté de moi qui me l'a dit la semaine dernière, parce que c'est le temps qu'on s'accorde justement à la formation, au partage et à l'enrichissement. Alors, bonne semaine à tous.
Vous me regardez.
C'est toi l'animateur.
Bien, alors, je reviens. Peut-être que le directeur de cette maison pourrait prendre la parole.
Ouais, ok, merci, merci. Je suis heureux de vous accueillir ce matin à l'Espace Mendès-France. Je vais vous en dire un mot. Plusieurs raisons de remarquer la force et l'impact de cette université d'été et surtout des contenus de sa réflexion. D'abord, titre personnel, pour moi, ça me permet de voir Jean-François Cerisier une fois par an. Et comme c'est un ami, ça me fait très plaisir. Alors, je voulais quand même le dire. Il a beaucoup de travail, il s'occupe beaucoup de vous et pas assez de lui et de ses relations, je crois, c'est pour ça. Donc merci Jean-François d'être depuis 7 ans à la tête de tout cela. Et c'est avec grand plaisir que nous sommes partie prenante de cette manifestation. Juste d'un mot pour celles et ceux qui ne sauraient pas, rappeler que l'Espace Mendès-France est une association, loi 1901, qui a été créée il y a une trentaine d'années par des scientifiques de l'Université de Poitiers qui étaient issus des sciences dites dures. À l'époque, les rapports entre la société et les citoyens étaient vus plutôt dans la dimension scientifique comme des rapports entre des gens qui savent et ceux qui ne savent pas. À l'évidence, 30 ans après, Tchernobyl, Fukushima, lavage folle et toute une série de catastrophes de santé publique, naturelles, technologiques, la montée du risque a mis en évidence le fait que les sciences expliquaient des choses, mais qu'il fallait changer le paradigme des rapports entre l'homme et la science, la société et la science. Derrière ce mot un peu emphatique, je rappelle à toutes et à tous la parole d'un sociologue qui habite pas très loin d'ici, qui s'appelle Paul Virilio, qui indiquait à tout le monde que toute avancée technologique a son Titanic. Et l'important n'est pas d'avoir peur du Titanic, l'important est de pouvoir se préparer collectivement à aller au-delà des problèmes que les technologies peuvent éventuellement poser. Quand on parle d'éducation tout au long de la vie, d'éducation initiale, de formation initiale, etc., etc., on rappellera aussi deux éléments qui sont simples, et que les outils et que les technologies ne feront pas l'économie d'une véritable réflexion. C'est en vous tournant, vous allez regarder une affiche qui s'appelle « Origine de l'homme sur les traces d'Abel ». Michel Brunet, vice-président de cette maison, a découvert en 1995 les traces d'un hominidé au Tchad, au centre de l'Afrique. Tous les manuels scolaires depuis 40 ans disent que les origines de l'homme sont en Éthiopie, autour de Lucie, 3 200 000 années. La découverte d'Abel, 5 millions d'années, la découverte de Touma, 8 millions d'années. Vous regardez les manuels scolaires, on continue à dire les origines de l'homme sont en Éthiopie, 3 200 000. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire simplement que les technologies, les plus puissantes soient-elles, les plus rapides à investir le marché et les usages, ne feront pas l'économie de la véracité des contenus, de leur mise en doute, du questionnement, et surtout la manière dont elles doivent être dispensées. Quand je dis la manière, c'est le chemin entre celui qui sait, momentanément, et celui qui ne sait pas encore. Une maison comme l'Espace Mendès-France, vous l'aurez compris, comme rôle, bien sûr, de continuer un travail de vulgarisation, c'est la véracité des contenus, le sens critique autour de ces contenus, qu'ils soient scientifiques, techniques, technologiques, mais également une mise en question de ces contenus, non pas pour une espèce de flagellation permanente d'une société qui aurait peur de son progrès, non, simplement pour que ces questionnements puissent rendre hommage à deux choses qui sont attendues de toutes et de tous dans une société. La première a été rappelée dans cette maison avant son décès par Hubert Curien, qui restera un des grands ministres de la recherche, qui disait que les rapports entre les sciences, les technologies et l'individu relève de deux dimensions, la dimension des savoirs dont on a tous besoin et la dimension citoyenne au sein de laquelle on doit tous être présent. Donc cette maison est présente comme interface entre le monde de la connaissance et nos concitoyens sur ces deux dimensions, mieux connaître le monde qui nous entoure dans sa dimension scientifique et technologique et mettre en débat ses aspects scientifiques. Je terminerai en disant deux choses. Yves Quéret, le vice-président de l'Académie des sciences, en venant ici, rappelait à toutes et à tous, à travers une belle phrase, que la science était une belle province de la culture. Je pense que l'éducation est une dimension qui, dans cette province, permet justement de créer des routes et des liens entre toutes et tous. Et le dernier point, c'est que, quelle que soit la dimension du virtuel, quelle que soit sa force, à un moment ou à un autre, nous habitons toutes et tous sur des territoires, et qu'à un moment ou à un autre, on a besoin de revisiter ces territoires à travers des lieux physiques, des lieux concrets qui permettent de faire l'aller-retour entre l'imaginaire stimulé peut-être par le virtuel et la dimension conviviale et individuelle que nécessite toute transmission et tout rapport entre les êtres humains. Donc cette dimension, cette maison l'a fait vivre. Nous sommes présents, bien entendu, depuis très longtemps, depuis 1995, sur la question des médias et du numérique. Nous avons été dans cette maison aussi à l'origine de présentations pour nos concitoyens poitevins. Et je pense que dans le futur, nous serons amenés à arpenter les deux champs dont je parlais tout à l'heure, celui des présentations et celui de la mise en débat. À ce titre-là, une semaine comme celle que vous allez vivre est sûrement porteuse d'interrogations. Et je vous rappelle à toutes et à tous d'être vigilants, car les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Merci.
Merci beaucoup, Didier. Alors, pour régler un problème complexe de protocole, je propose d'en revenir à la règle que nous nous étions fixée en préparant le programme, qui est celui de l'ordre alphabétique. Alors, il sera un tout petit peu complexifié, vous le verrez tout à l'heure, mais bon, respectons-le tel qu'il est dans mon conducteur. Et donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Bernard Cornu du CNED Innovation.
Merci. Alors, je ne sais pas si c'est l'ordre alphabétique des prénoms, du nom ou de l'institution. D'abord, je voudrais vous saluer de la part du directeur général du CNED, Serge Bergamelli, qui vous transmet tous ses encouragements et qui s'intéressera beaucoup aux fruits de ce colloque, de cette semaine. Le CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance. Jean-François a déjà dit beaucoup de choses sur l'enseignement à distance tout à l'heure, ça va me permettre d'être plus bref. Simplement, en quelques mots, le CNED, ce sont 200 000 personnes qui apprennent à distance, 200 000 inscrits au CNED, qui a 3 000 personnels pour leur apporter les services dont ils ont besoin, et des inscrits, des usagers, des clients, des élèves, des étudiants, je ne sais pas comment les appeler, qui couvrent la totalité du champ de ceux qui ont besoin d'apprendre, depuis l'école maternelle jusqu'à l'école primaire, le collège, le lycée, l'enseignement post-bac, des formations universitaires en collaboration avec une trentaine ou une quarantaine d'universités, des BTS, des préparations au concours, et puis pour les adultes, des formations à distance dans le cadre de la formation tout au long de la vie, des dispositifs de formation ou des formations de culture générale. Le CNED dispose de près de 3000 formations en tout. Le CNED, évidemment, est très vieux. D'abord, le CNED a plus de 70 ans, bien plus ancien que les ordinateurs et que la distance électronique, que la distance numérique. Le CNED est en pleine révolution numérique, comme la plupart des établissements qui sont ici. Le CNED, en fait, cherche à entrer dans cette révolution numérique, non seulement par ses produits, mais surtout par ses services. Ce sont les services numériques qui enrichissent l'enseignement à distance. Et quand on parlera de nomadisme, on parlera essentiellement, j'imagine, de services numériques. L'apprenant du CNED, il est nomade depuis toujours, par excellence. Il a vocation à être nomade dans l'espace, à être nomade dans le temps. Ce double nomadisme, en fait, on le conjugue à travers les dispositifs innovants que nous essayons de mettre en place année après année au CNED. Je ne vais pas vous décrire les typologies d'usagers du CNED, mais ça va vraiment de tous ceux qui ne peuvent pas faire autrement que d'apprendre à distance parce que les conditions de leur vie leur rendent impossible de faire autrement, mais aussi ceux qui le font par choix, ou encore ceux qui se disent « mais dans cette société d'aujourd'hui, travailler à distance, apprendre à distance, c'est pas seulement pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, c'est pour tout le monde. Nous avons tous besoin de ce travail à distance, à tel point qu'on voit des formations classiques, présentielles, qui intègrent dans leur cursus des modules à distance parce que se former à distance devient une compétence nécessaire pour tous. » Dans ce paysage de nomadisme qui se développe, le CNED a créé il y a un an une direction de l'innovation dont j'ai la charge. qui a pour objet d'implanter au sein du CNED une espèce de département de R&D, un lieu où on essaye de préfigurer l'apprentissage à distance de demain, le CNED de demain, comment apprendra-t-on, non pas seulement du point de vue technologique, mais du point de vue pédagogique. Ce qui est très frappant dans le domaine de l'innovation, c'est d'une part que les technologies innovantes, ça, nous sommes dedans, tous, vous et moi, nous les voyons arriver, défiler, elles sont de moins en moins chères, de plus en plus rapides, de plus en plus efficaces, etc. Mais au fond, qu'est-ce que ça change dans nos usages, véritablement, et pour ce qui nous concerne, dans l'usage de l'apprenant? Et on s'aperçoit qu'il y a un espèce de fossé qui se creuse de plus en plus entre la technologie et la pédagogie. La technologie va très vite, la pédagogie va très lentement. Je ne plaide pas pour qu'elle aille très vite, mais je plaide pour qu'on ait conscience de ce fossé qui se creuse et qu'on essaye non pas seulement de fourrer à tout prix les technologies les plus récentes dans nos pédagogies traditionnelles, mais au contraire d'enrichir véritablement nos pédagogies parce que désormais nous avons des moyens nouveaux pour enrichir l'acte pédagogique, pour enrichir la relation entre l'élève et son tuteur, son enseignant, son professeur s'il en a un, entre l'élève et le savoir, entre le savoir et l'enseignant, ces choses-là peuvent s'enrichir grâce aux technologies. Et la direction de l'innovation au CNED est une direction de l'innovation pédagogique, tirant plein fruit des technologies pour enrichir la pédagogie. Parmi les thèmes de travail de l'innovation, il y a évidemment, nous avons fixé 5 grands thèmes d'innovation. L'un d'entre eux, c'est mobilité et nomadisme, ça va de soi. Et donc, on est tout à fait heureux de participer à ce colloque et d'avoir contribué à sa préparation, puisque l'une des journées, d'ailleurs, se déroulera chez nous, dans nos locaux, sur le site du Futuroscope. Vous y serez les bienvenus. Et puis enfin, pour terminer cette présentation très rapide du CNED, Muriel Brunet rappelait que la Cité des Savoirs s'est vu labelliser Living Lab récemment. Le CNED aussi, si je puis dire. Nous avons 2 Living Labs à Poitiers, faits pour travailler ensemble, puisque leurs thèmes ont de grands points communs. Le Living Lab du CNED s'appelle Apprentissage augmenté. Apprentissage augmenté. Ça inclut évidemment beaucoup de notions que nous verrons pendant cette semaine. Apprentissage augmenté, c'est assez difficile de définir ce que ça veut dire, sans doute, mais je crois qu'il faut se placer dans le champ des usages. Un Living Lab, un laboratoire vivant, c'est un lieu où on expérimente en grandeur nature des nouveaux comportements, des nouveaux usages, pour ce qui nous concerne des nouvelles pédagogies liées à des nouvelles technologies. Et ce laboratoire vivant au sein du CNED et avec ses partenaires vous donnera aussi l'occasion de le connaître, puisque en fin de semaine, une journée est co-organisée d'ailleurs par les Living Labs. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci beaucoup.
Merci Bernard, c'était l'ordre alphabétique des noms de famille, mais en ce qui te concerne, Bernard Cornu CNED, finalement, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose. En tout cas, on va passer de la lettre C à la lettre D avec Bruno Devauchet et le CEPEC International.
Oui, bonjour à tous. Je dois être le seul nomade réel de cette table ronde, puisque habituellement, quand j'intervenais à l'ouverture de ce campus, j'intervenais à distance via Skype. Là, pour cette fois-ci, je me suis vraiment déplacé, comme quoi ce que tu dis est juste, Jean-François. Il faut parfois savoir se retrouver aussi entre nous. Le CEPEC, Centre d'études pédagogiques pour l'expérimentation et conseil, est un organisme de formation, de recherche et d'enseignement supérieur qui est lié à la Faculté catholique de Lyon et qui est partenaire depuis de nombreuses années maintenant du département IME de l'Université de Poitiers, avec lequel nous travaillons et sur des domaines de recherche, sur la formation, et nous avons la chance donc de participer à cette organisation depuis le début. Depuis les premières fois. Et donc, c'est toujours une joie de se retrouver ici au mois de septembre pour aujourd'hui et plus particulièrement aborder ce qui, pour nous, est important dans cette semaine. Il se trouve que le CEPEC et le CEPEC International interviennent en France et à l'étranger, et particulièrement dans le pourtour méditerranéen et dans l'Afrique subsaharienne, pour le développement de la formation, de l'éducation et de l'enseignement. Et il se trouve qu'il y a une opportunité extraordinaire en ce moment, puisque un certain nombre de pays réfléchissent à quel développement, en fonction d'une éducation à construire pour un certain nombre de ces pays, je pense à la Guinée par exemple ou d'autres, et face à ces problèmes-là, comment les outils de mobilité, les outils nomades peuvent permettre d'aider à cette évolution. On ne le sait pas encore, en tout cas il y a un vrai terrain de travail, on sent que ça part dans tous les sens. On va cette semaine justement travailler ce terrain-là parce qu'il y a effectivement autour des outils nomades, mais peut-être pas forcément des modalités scolaires d'usage des outils nomades, mais d'autres modalités. Il y a probablement un gisement qui devrait permettre à tous et à toutes, non pas seulement dans de l'expérimentation, mais bien dans des terrains existants, des terrains fondés sur une histoire et sur des contextes socio-économiques, comment ces outils-là peuvent s'insérer et être vraiment efficaces. Ce n'est plus de l'innovation. Là, c'est par contre de la mise en œuvre dans des terrains réels. Et ça, c'est un vrai problème actuellement quand on voit la rapidité de développement des téléphones portables en Afrique, par exemple, et la volonté de tout un chacun aujourd'hui de ne pas se retrouver dans une autre sorte de mise à l'écart qui serait cette fracture numérique internationale qui est en train de se développer à très, très grande vitesse. Et notre semaine mériterait d'ailleurs d'être vue au-delà des frontières de notre pays. Voilà, je vous remercie.
Merci Bruno. Alors toujours lettre D, Jean-Michel Perron. Du Centre national de documentation pédagogique, comme l'étiquette qui est devant lui l'indique.
Oui, bonjour. Donc, je dois d'abord vous excuser l'absence du directeur général Patrick Dion, qui n'a pas pu être présent. Évidemment, il était prévu qu'il soit là et il tenait à venir à cette manifestation que évidemment nous soutenons aussi, mais des rendez-vous de dernière minute au ministère ont fait qu'il n'a pas pu se rendre disponible. Donc, voilà. Donc moi, Jean-Michel Perron, je suis le directeur de l'Agence nationale des usages des TIS au Centre national de documentation pédagogique. Alors le Centre national de documentation pédagogique, qu'est-ce que c'est ? C'est un établissement public national qui est basé donc au Futuroscope et qui est le pilote de 31 centres régionaux et 84 centres départementaux. Et vous voyez, en commençant de cette manière-là, eh bien, évidemment, je parle de stabilité, je parle de lieu, je parle d'espace, et je parle de lieu où on a, nous, envie de faire venir notre public cible, les enseignants, de façon à ce qu'ils puissent être accompagnés par les 2000 membres qui composent ce réseau des centres régionaux, centres départementaux et du centre national, alors qu'il y a un autre nom, puisque quand on agglomère comme ça des compétences, ce réseau s'appelle le réseau CEREN. Alors allez, j'ai dit beaucoup de termes, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais Service Culture Édition Ressources de l'Éducation Nationale, CEREN, qui a un pilote, le Centre National, et puis 31 centres régionaux et des centres départementaux. Quelles sont nos missions ? Nos missions, elles sont, on l'entend dans le terme CEREN, c'est d'abord une mission d'édition. Nous sommes un éditeur public avec environ aujourd'hui 2000 ressources documentaires sur le catalogue, puisque notre mission est bien évidemment d'éditer, mais aussi de diffuser et de vendre, de commercialiser ces ressources. Et puis, à côté de cela, le ministère de l'Éducation nationale nous demande de mener un certain nombre de missions liées aux priorités nationales dans l'éducation. Et nous avons la mission de promouvoir les usages des technologies de l'information et de la communication et les arts et la culture. Voilà un petit peu toutes les missions de ce réseau CEREN. Et à travers cela, eh bien, nous sommes, comme tout le monde, comme tous les établissements maintenant, eh bien, dans la situation de voir arriver des évolutions technologiques et des évolutions techniques très rapides. Et comme tout éditeur, nous nous posons les questions de la dématérialisation, de la miniaturisation des technologies, puisqu'on parlait il y a quelques années de la loi de Moore avec les processeurs qui augmentent de puissance tous les 2 ans. Cette loi apparemment était en train de s'arrêter, mais ce n'est pas vrai. On arrive aujourd'hui à une miniaturisation, on arrive à une dématérialisation des contenus qui fait que les technologies, les évolutions technologiques continuent de s'accélérer, les contenus sont aujourd'hui dans des contenus de flux, et toutes ces questions, bien évidemment, nous sommes obligés de nous les poser. Alors le CNDP, dans sa structure, a un département développement des usages, c'est un petit peu la même chose que la direction de l'innovation du CNED. On voit que les établissements aujourd'hui, de toute façon, sont obligés de s'organiser en fonction de ces grandes évolutions. Et à l'intérieur de ce département, nous avons une agence nationale des usages, des TIS, parce qu'aujourd'hui, un petit peu comme les autres établissements l'ont dit, il faut s'intéresser aux apprenants, il faut s'intéresser aux utilisateurs, il faut s'intéresser à notre public cible. Alors notre public cible, ce sont les enseignants du primaire et du secondaire en particulier, et ensuite tout ce qu'ils peuvent faire, toute leur manière de faire avec les technologies au niveau de l'apprentissage et au niveau de l'enseignement dans les établissements scolaires. Nous avons commencé cette adaptation de nos contenus depuis de nombreuses années. Nous éditons environ 50 sites pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, de sites web, et nous avons un certain nombre de nos productions qui aujourd'hui sont bimédias. Vous avez eu normalement dans le cadeau que vous avez eu lors de votre inscription à cette université, deux documents, deux magazines, l'école numérique, un autre magazine TDC, texte et documents pour la classe, qui est un document très utile pour les enseignants qui existe depuis fort longtemps au CNDP. Eh bien, ces documents sont soutenus maintenant par un site web complémentaire, donc ce sont maintenant des revues bimédia. Donc vous voyez bien la première phase, on va dire le premier étage de notre fusée au niveau de cette adaptation au nouveau contenu. Ensuite, nous avons commencé à créer des sites qui sont des sites vidéo, podcastables, qu'on peut diffuser et qu'on retrouve en mobilité de manière sur les smartphones, sur les tablettes. Et le dernier étage, nous sommes actuellement en train de publier d'ici quelques semaines un site sur iTunes U de façon à pouvoir être aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de techniques et d'objets, mais les plateformes qui permettent de diffuser l'information aujourd'hui sont aussi importantes que les objets eux-mêmes. Et donc, nous allons être sur ces plateformes de diffusion de l'information qui permettent d'accéder à l'information de partout. Et dernier étage, nous essayons de plus en plus de réfléchir, grâce à notre agence des usages, grâce à l'observation que nous pouvons faire des utilisateurs, nous réfléchissons à comment pouvoir créer de nouvelles applications pédagogiques sur les tablettes, de façon à être aussi en phase avec ce nouveau développement. Alors, est-ce que, là encore, nous courons après les technologies, comme aujourd'hui tout le monde court après ces évolutions technologiques? Est-ce que c'est la seule solution? Certainement pas. Mais un éditeur, quel qu'il soit aujourd'hui, ne peut pas faire autrement. Et une des chances que nous avons ici sur ce territoire aujourd'hui, c'est de pouvoir se fédérer avec les autres établissements publics, se fédérer avec des partenaires industriels à travers la Cité des Savoirs et de pouvoir réfléchir ensemble. À des réponses à des appels à projets universitaires, scientifiques, c'est un moyen. Mais réfléchir ensemble sur ce que sera les évolutions de demain et comment nous répondrons au mieux aux besoins de tous ces utilisateurs, tous les enseignants, de façon... Parce que, in fine, nous n'avons qu'une seule, une seule ambition, c'est la réussite des élèves, c'est favoriser la réussite des élèves. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui change, des évolutions technologiques très très importantes. Grâce à cette fédération, nous pensons que nous serons plus prêts à mieux faire réussir les élèves demain. Voilà, merci.
Merci Jean-Michel. Donc maintenant, c'est ta voisine de droite ou de gauche, comme on veut, selon le côté de la salle où on se trouve, qui va prendre la parole, Françoise de Vézu du CNAM.
Bonjour, donc je représente le Conservatoire national des arts et métiers. Comme le soulignait tout à l'heure notre directeur de l'espace Mendès France, il ne faut jamais oublier de rappeler d'où l'on vient. Et le conservatoire, en fait, est né sous la Révolution française. Alors, ça fait déjà plus de deux siècles, et c'est l'abbé Grégoire qui avait lancé l'idée de la nécessité d'avoir un conservatoire qui doit concourir à la diffusion de l'innovation technologique et des savoirs scientifiques, ainsi qu'à la promotion de l'esprit de création. Et la devise du CNAM, depuis donc plus de 200 ans, c'est omnes docet ubique, c'est enseigne à tous et partout. Donc c'est une vaste mission et qui est une réalité dans la mesure où le CNAM est présent dans le monde entier. Notre administrateur, donc Christian Forestier, a toujours plaisir à dire que le soleil ne se couche jamais sur le CNAM, puisqu'effectivement, nous sommes partout, nous sommes à Papette, nous sommes en Afrique, nous sommes au Brésil. Enfin, vous allez sur le site du CNAM et vous verrez toutes les implantations. Et donc, pour autant, il faut s'organiser. Et s'organiser, c'est de créer des réseaux. Donc derrière le mot réseau, effectivement, au-delà des sites, ça veut dire une organisation, l'utilisation d'un certain nombre de technologies. Tout ça pour mener une mission. Donc sans oublier que nous sommes avec le ministère, nous sommes sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et nous avons trois missions à mener. Celle de la formation tout au long de la vie. Donc cela signifie que nous travaillons pour les adultes en activité. Et aujourd'hui, donc, sur le seul territoire français, ce sont 100 000 personnes qui viennent chaque année se former au CNAM. Nous devons aussi mener la mission de la recherche, puisque évidemment au CNAM, nous avons un certain nombre de laboratoires et 500 enseignants-chercheurs. Et la diffusion de la culture scientifique et technique, toujours essayer de revenir sur l'histoire, de comment les choses se sont réalisées et comment elles se projettent dans l'avenir. Donc voilà nos trois missions. Donc 100 000 adultes qui trouvent au CNAM la possibilité effectivement d'évoluer professionnellement, plus de 800 formations, plus de 800 donc, diplômes. Et ce qu'il faut voir dans l'évolution du conservatoire, donc bien évidemment, il est né d'abord à Paris, comme beaucoup de choses en France. Et en fait, son réseau sur le territoire français a commencé à se constituer seulement dans les années 50. Donc à partir de là, il y a eu des régions qui ont créé leur propre association CNAM pour relayer les enseignements. Et la petite histoire par rapport à l'enseignement à distance, donc d'une part, il faut savoir que nous travaillons avec le CNED. Nous avons un institut, l'INTEC, qui collabore avec le CNED. Pour autant, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, vous avez sûrement aussi vu dans les années 70 les émissions de télévision du conservatoire. C'est amusant de revenir là-dessus parce qu'on voit les évolutions. 1985-87, c'était les fameux téléenseignements, ça ne nous rajeunit pas. L'ordinateur, tout ce qui était enseignement assisté par ordinateur, et on se passait des fax et des conférences téléphoniques, c'était assez folklore. Ça, j'ai connu dans la région également, entre Parthenay, tous les territoires étaient touchés. Et puis est arrivé l'Internet, et je me souviens encore, en 1997, quand nous avons lancé les premiers cours sur l'Internet, on riait un petit peu de nous. C'est-à-dire, oui, l'Internet, c'est pas pour tout le monde, c'est que pour les chercheurs. Vraiment, c'est investir dans quelque chose qui aura bien du mal à venir auprès du public. 1997, finalement, dès les années 2000, on a vu ce que ça a donné, puisque l'Internet a vraiment envahi les foyers. Et il y a des éléments importants aussi à prendre en compte dans cette évolution. Et je vais parler de ce que je connais, à savoir la façon dont on accompagne, nous, les salariés et demandeurs d'emploi à se former. En 2000, vous avez eu le passage aux 35 heures. Anecdotique, pas tant que cela. À savoir que ça a remis en question toute l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'avant, nous, au CNAM, les personnes, une grande partie, on ne fait pas que des cours du soir, mais on va dire que 30% de nos formations sont faites en cours du soir, venaient se former de 18h à 21h. Éclatement de l'organisation du travail, c'est-à-dire des horaires qui changent. On n'est plus sur du 9h-17h. Des personnes commencent tôt, d'autres finissent tard. Donc le modèle, là, ça commençait à devenir un peu gênant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que souvent, en tant qu'organisme, on est aussi lié à la contrainte. Et c'est souvent la contrainte qui nous fait bouger. Donc tout comme on a pu avoir là les exemples de la contrainte technologique, il y a aussi la contrainte de l'organisation du travail, nous concernant, puisqu'on s'adresse aux adultes, et de la société. Donc il a fallu commencer à réfléchir, au-delà de l'Internet, comment organise-t-on les choses pour que les personnes puissent y accéder. Puis un autre petit élément, tout simple, 2008, nos auditeurs commencent à nous dire c'est cher de venir se former, se déplacer, le temps déjà, et puis après le coût du transport, donc une petite pression supplémentaire. Donc ça veut dire que derrière, nous-mêmes, nous travaillons avec nos formateurs pour commencer vraiment à les former et à leur dire qu'il va falloir travailler sur l'hybridation des formations. Donc aujourd'hui, quand on a 100 000 auditeurs, plus de la moitié suivent au moins une formation faite en hybride ou tout FOD, formation à distance. L'hybride, c'est du mixte présentiel et une partie de module à distance. Donc on voit cette évolution, et puis une autre évolution, évidemment, maintenant on accueille les 25 ans, puisque nous on est plutôt adultes. Les 25 ans, ça fait déjà 11 ans qu'ils sont sur Internet, et eux, leur vision du monde et la vision de l'apprentissage n'est plus du tout, une partie en tout cas, n'est plus la même que celle des adultes de 45 ou 50 ans. Et là, ça fait bouger énormément les choses, et notamment nos formateurs sont bien obligés de s'adapter et d'aller plus loin, et sont demandeurs, demandeurs par les usagers. D'où l'intérêt pour nous, évidemment, d'être impliqués aussi dans le Living Lab avec Wolf, dans la mesure où beaucoup de nos évolutions viennent des usagers. On est là pour anticiper. La preuve en est, c'est qu'en 2004, au CNAM, avec le partenariat Université de Poitiers et de La Rochelle, nous avons créé l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, qui aujourd'hui est un véritable laboratoire sur les usages. Et grâce à l'Engmin, nous nous lançons aussi dans la production de Serious Game. Là encore, grande question, quel type d'apprentissage par le Serious Game? Donc nous voyons que c'est un croisement technologie, l'usager, et c'est à nous, effectivement, d'être présents, d'être novateurs, d'expérimenter. C'est pourquoi aujourd'hui le conservatoire est pleinement investi évidemment à la Cité des Savoirs pour travailler en mutualisation avec les différents partenaires, à envisager le demain, à expérimenter. Et donc, je pense que nous pourrons voir cette semaine que ce campus d'été, comme je le disais tout à l'heure, c'est un bol d'air, ça va nous permettre effectivement de nous oxygéner et de voir un peu mieux les évolutions et les accompagner. Donc, je pense que j'ai dû faire le tour, j'ai dû oublier des chiffres, mais ça, c'est pas bien important. Vous allez sur le site du CNAM et vous trouverez tout cela. Merci.
Alors, comme je crois ne pas être le seul à avoir remarqué qu'il y avait une compétition sur l'âge. Aux 200 ans du CNAM, donc maintenant j'ai le plaisir, bien sûr, de passer la parole à Hervé Sabourin, vice-président d'une université un peu plus âgée.
Bien sûr, oui. Bon, je suis effectivement très, très heureux, moi, de participer ce matin à cette ouverture de campus d'été. Alors, cela pour plein de raisons que je vais bien sûr évoquer maintenant. La première, bien sûr, c'est d'avoir pu répondre à l'invitation de mon collègue Jean-François Cerisier, que je ne vois pas qu'une fois par an, cher Didier, puisqu'effectivement nous sommes collègues à l'université et qu'on se voit aussi pour des raisons, on va dire, européennes et internationales. Peut-être que j'en parlerai un peu plus tard. La seconde raison, c'est en fait le titre « Campus d'été européen, apprentissage nomade ». Tous ces mots me parlent fortement. Campus d'été, d'abord, il faut savoir que l'Université de Poitiers a une forte tradition d'organisation de sessions d'été au sein de l'établissement. Nous en organisons souvent entre 3 et 4 par an. Le campus d'été, bien sûr, européen, celui-ci, est pour nous très, très important. Et tu as raison de dire, Jean-François, qu'il est supporté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est important de souligner ça, que ce ministère subventionne encore cette année ce campus à une époque où les subventions deviennent de plus en plus dures à obtenir et plein de gens le savent ici. Alors, campus d'été européen, apprentissage nomade. Eh bien, il se trouve que je suis vice-président chargé des relations internationales et européennes. Donc, vous pensez bien que quand le mot européen apparaît, cela me parle énormément. Mon établissement est fortement, très fortement impliqué dans les relations avec l'Europe à travers de très nombreux programmes d'éducation et de recherche, dont celui qui est piloté justement par Jean-François Cerisier, un prestigieux Master Erasmus Mundus consacré aux médias numériques. Les médias numériques, il me semble que ça correspond assez bien aux thématiques qui vont être développées durant cette semaine. Et puis, si je continue, je suis donc vice-président chargé des relations internationales et également je suis enseignant-chercheur. Pour moi, enseignant-chercheur, quand on parle d'apprentissage, évidemment, ça me parle. C'est évidemment fondamental pour, et je considère ça comme l'une des missions essentielles de mon établissement. Nomade, eh bien écoutez, pour reprendre ce que vous disiez, ce que disait mon voisin, nomade, ben, je crois que je le suis un peu. En tant que vice-président chargé de relations internationales, je parcours le monde, car à l'Université de Poitiers également, le soleil ne se couche jamais, puisque je vais fréquemment d'Australie, de Chine vers la Chine, en passant par les États-Unis, le Brésil, le Canada, etc. Nous avons énormément de relations avec le monde entier, tant mieux, évidemment. C'est absolument fondamental, j'en dirai un mot tout à la fin de mon intervention. Alors, juste quelques petits mots sur l'Université de Poitiers. Rapidement, pour la présenter, faut-il le faire ? Oui, quand même. C'est d'abord une grande, à mon avis, une grande communauté humaine. J'insiste sur le mot humain, formée d'étudiants, environ 24 000 actuellement, et formée de plein de personnels, 3 000, qui travaillent, je dirais, dans tous les domaines et qui ont des missions à accomplir. Quand je dis 3 000, globalement, parce que je crois que tous les personnels comptent au même titre, au même niveau, il y a des enseignants, il y a des chercheurs, il y a plein de personnes dans les services de l'université qui travaillent d'arrache-pied pour mettre en œuvre toutes les missions qui sont les nôtres. Alors je dirais que ces différentes personnes travaillent à l'intérieur de 14 composantes. Des composantes, pour nous, ce sont des facultés, des instituts, des écoles. Et ces 14 composantes recouvrent l'ensemble des disciplines dites académiques. On fait de tout à l'université, absolument de tout, des sciences, des lettres, des sciences humaines, du droit, de la médecine, etc. Et je dirais que tout ce monde-là, moi je vais dire, on a évidemment trois grandes missions il y a trois grandes dimensions à l'université. Une grande dimension de recherche, j'insiste bien, de recherche. Didier, tu as parlé dans ton intervention de Toumaï. Toumaï, bien sûr, c'est avant tout une aventure qui a été donc entreprise par un professeur de l'Université de Poitiers, en collaboration avec des Tchadiens, évidemment. Et ça aboutit à cette découverte immense dont a parlé Didier tout à l'heure. C'est aussi plus récemment, par exemple, ce qui s'est passé au Gabon. La découverte de fossiles et de traces de la vie multicellulaire qui date de, on le sait maintenant, de plus de 2 milliards d'années, alors qu'avant, disons, la découverte récente, on en était à 600 millions. On a fait un passage de 600 millions à 2 milliards 100 grâce à une équipe de la Faculté des sciences de l'Université de Poitiers. Et j'en passe d'autres. Donc il y a 45 laboratoires de recherche à l'université qui travaillent dans ce sens-là. C'est évidemment aussi une dimension de formation liée à l'insertion. Ça, c'est important, je le précise. Il faut que l'Université de Poitiers change un peu l'image qu'on a souvent des établissements d'enseignement supérieur, qui est de dire qu'on on met en place des formations pour permettre à nos étudiants de trouver du travail, de trouver une bonne insertion. Et puis, je voudrais insister, une dimension de relation, je dirais, extérieure avec la société dans son ensemble, les entreprises, tous les partenaires et avec l'international. Je voudrais finir par cela. Nous avons effectivement énormément de relations internationales, je crois qu'on peut le dire, puisque actuellement 4200 étudiants internationaux sont inscrits chez nous, venant de 137 pays différents. Vous voyez, le soleil vraiment ne se couche jamais à Poitiers. Et donc, je terminerai par ça. Quand on parle d'international, on se pose vraiment la question de savoir que si l'on veut travailler efficacement avec tous les pays du monde, il faut qu'on puisse peut-être inventer un enseignement adapté. L'enseignement tel qu'il est pratiqué le plus souvent, qui consiste en un cours dans l'université devant des étudiants, ne marche plus vraiment quand il s'agit d'aller aider des tas de pays dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle ce colloque et cette thématique est fondamentale, et j'y crois fortement, car personnellement, en tant que vice-président pour les relations internationales, j'en ai besoin. Quand on part, je vous citais juste un dernier exemple, quand on est en train d'essayer de travailler avec Haïti. Haïti, c'est un pays dévasté, un pays qui n'a plus d'université, un pays qui veut se reconstruire. Comment le faire? Peut-on imaginer, dans les 10 ans à venir, pouvoir reconstruire 20, 30 universités? Non. Comment faire si ce n'est par développer un environnement, un enseignement numérique adapté? Voilà un exemple, à mon avis, criant. Alors, c'est le choix qu'a fait le gouvernement haïtien. C'est de développer ce type d'enseignement. Et donc, je crois que les thématiques que vous envisagez cette année répondent, à mon avis, de manière très, très importante à toutes ces missions qu'on a de travailler avec tous les pays du monde. Mais c'est aussi une demande qui doit être faite chez nous-mêmes, chez nous, à l'intérieur de l'établissement. On doit aussi réfléchir davantage à ces formes modernes de technologies éducatives, mettre en place peut-être plus d'enseignement de ce type-là pour nos étudiants, tout en réfléchissant, et Jean-François, je crois que tu as raison, à cette notion de ne pas tomber trop dans l'immobilisme, peut-être une forme de mix entre le présentiel et la distance. Peut-on imaginer qu'on puisse mixer ces deux notions? Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci à tous. Alors en fait, j'ai été d'une très très grande imprudence en préparant cette table ronde d'ouverture. D'abord pour des questions d'horaire, bien sûr, mais on va être dans les temps. On a qu'à 10h30 et vous restez assis jusqu'à 10h30, s'il vous plaît. Mais c'est surtout que j'avais prévu de poursuivre après ce premier tour de table par quelques questions qui vous seraient adressées avec l'intention de vous provoquer un peu. Et là, double imprudence de ma part. La première est de vous avoir communiqué les questions. Donc elles ont été déjà traitées. Et la deuxième, c'est que allez relire mes questions, de toute façon, vous les auriez traitées même si je ne vous les avais pas posées. Donc c'était de mauvaises questions. Donc je vais me cantonner à une seule question et on va rester peut-être dans la provocation et peut-être dans l'horaire. Vous l'avez tous dit de façon très explicite, vos institutions sont vénérables. Sauf peut-être Muriel et la Cité des Savoirs, qui est une jeune directrice d'une jeune d'un jeune cluster, mais pour vous autres tous, vous l'avez dit, quel que soit le nombre d'années, vous êtes de vous représenter des institutions très installées. Et donc ma question est simple. Vous fonctionnez sur un acquis très bien établi, avec des structures, une organisation, des moyens, des outils, des publics, etc. Extrêmement solides, qui font votre force ou qui font notre force, mais qui font peut-être aussi notre faiblesse. Donc d'un mot, je sais que l'exercice est impossible, et la question n'était pas posée là. Comment est-ce que vous imaginez pouvoir survivre? Et comment vous imaginez-vous dans 2 ans, dans 10 ans, ou bien dans plusieurs centaines d'années, puisque c'est à l'échelle de vos établissements? Et là, je ne donne pas la parole, la prend qui veut.
Je vais commencer.
Vas-y.
Principe de la thermodynamique, rien ne se perd, rien de secret. Bref, tout est mortel. Hein. Je crois qu'il faut qu'on parle de ce prémisse. Donc moi, en deux secondes, simplement pour dire, quand je dis tout est mortel, oui, je pense que tout est mortel. L'important, c'est d'essayer de considérer au sein des structures qu'on appelle des institutions. Donc quand tu as dit vénérable, j'avais un prof à l'université de Poitiers qui me disait les choses sont en hable, vénérable, pas assez vénéré, respectable, pas assez respecté. Donc on peut se poser la question de savoir si cette notion de vénération par rapport à l'âge, elle est toujours d'actualité. Pour ce qui concerne la dimension académique, je ne me risquerai pas, même si j'ai quelques pistes de travail. Pour ce qui relève des institutions culturelles qui ont un rapport à l'éducation informelle, tout au long de la vie, moi je dirais que les choses sont en phase de suivre des cycles de vie. Je vous rappelle que pour les Français, il y a une institution qui semblait installée, qui vient d'être démantelée par le gouvernement actuel, qui s'appelle le Palais de la Découverte, qui est pour moi la référence en termes de culture scientifique. Et si je vous dis ça, c'est que je me fais aussi l'écho du directeur d'un grand établissement qui est à San Francisco, qui s'appelle l'Exploratorium, et qui disait pour nous la référence de 1936, c'est le Palais de la Découverte à Paris. Il vient d'être démantelé, il vient d'être transformé. Quid de la notion de transformation par rapport au fait que les établissements sont amenés à ne pas survivre? Cette transformation, pour moi, elle est simple. Elle relève d'un regard politique sur les choses. La notion de diffusion de la culture scientifique, non seulement elle est importante, mais ça n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est vital pour nos sociétés. Quand je dis nos sociétés, ce sont les sociétés occidentales, telles qu'elles ont fonctionné depuis 2 ou 3 siècles, et en particulier au regard de ce qui se passe en Chine, en Asie en général, ou dans un sous-continent dont on ne parle pas, c'est en France, qui est l'Inde. Il est quand même remarquable de voir que les classements universitaires étaient faits jusqu'à il y a une dizaine d'années par de vénérables institutions nord-américaines. Maintenant, c'est le classement de Shanghai qui met tout le monde à la corbeille ou pas. Donc là, je pense que ça mérite une petite réflexion de notre part. Pour ce qui est de l'Espace Mendès France, je pense que c'est une maison qui, de par la manière dont elle fonctionne, génère de la recréation ou de la régénération régulièrement à travers son projet. Si un jour l'Espace Mendès France doit disparaître, ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau de Poitiers, du Grand Poitiers et du travail qu'on fait en région Poitou-Charentes actuellement, cette mission, elle perdure. Ce qui est important, c'est que cette dimension de relation science et société, c'est comme la fracture numérique qui était évoquée par mes collègues tout à l'heure, cette relation entre science et société, non seulement elle doit être remise en œuvre, mais elle doit être maintenue. Parce qu'il en va de l'éducation de tout le monde, il en va d'un chemin culturel pour tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, mais il en va aussi de la capacité à irriguer les responsables de structures économiques, créatrices de valeur, pour que cette notion de créativité puisse se transformer en notion d'innovation et que ces notions d'innovation se transfèrent vers des projets qu'ils soient marchandisables ou non marchandisables. Donc, premier point, c'est que l'important, la mission doit rester. Deuxième point, on est aussi entré dans une période où la dimension déontologique et éthique est plus que jamais indispensable dans la tête des porteurs de stratégie. J'en veux pour preuve, et on en reparlera sûrement à un moment ou à un autre, de la manière dont les opérateurs dans le monde, opérateurs téléphoniques, ont opéré ces dernières semaines ou ces derniers mois sur des questions qui relèvent des droits de l'homme et qui relèvent également des rapports de force internes et politiques. Confère ce qui se passe en Libye en ce moment, ce qui s'est passé en Syrie récemment, où on se retrouve dans des dimensions où la technologie transcende, au mauvais sens du terme, une dimension éthique et déontologique. Donc quand moi je dis l'important, c'est pas que les institutions durent, mais c'est que le cœur de leur mission puisse être transféré, c'est une attention à laquelle il faut vraiment être très très vigilant. Dernier point, j'étais la semaine dernière en Louisiane, J'ai la chance de participer à la création d'un centre de formation pour les Haïtiens. Le centre de formation, il est en Louisiane, là où les créoles viennent depuis 3 siècles, à Saint-Martinville. Et je pense que le fait qu'ils se rencontrent physiquement, ensemble, maintenant, régulièrement, pour des formations, renforce cette dimension d'aller-retour entre du présentiel, etc. etc. Donc, les choses sont faites pour être modifiées. Il faut pouvoir être présent sur les conditions de cette modification, les accompagner, ne pas les subir. Telle est la manière dont nous, on envisage ça ici.
Alors, Hervé, d'abord, et Bruno.
Oui, ben, pour répondre un peu à ta question, je dirais, là, du coup, je vais rappeler qu'effectivement, l'Université de Poitiers a été créée il y a 580 ans. Donc, c'est une vieille université. Mais en même temps, ce que je peux dire, c'est que je crois que depuis un certain nombre d'années, l'université évolue. Il y a un signe d'évolution manifeste qui se retrouve à travers les prises de conscience, disons, de ce que doit être une formation à l'université, de ce que c'est que l'enseignement, notamment. Je crois que les récentes innovations, moi je prendrai l'exemple de la faculté des sciences, que je connais un tout petit peu, où par exemple il y a des nouveaux cursus, des nouveaux cours qui sont en place. Hein. On ne fait plus uniquement des mathématiques, de la physique ou de la chimie, mais il y a maintenant ce qu'on appelle la préparation à la vie professionnelle, qui a été intégrée dans les cursus, qui prouve que résolument la communauté de l'université comprend et adapte ses propres missions au monde moderne. Donc il y a de la modernité. Alors, est-ce que c'est le signe je crois que c'est le signe, effectivement, qu'il ne faut pas être pessimiste, trop pessimiste. Par contre, il y a des évolutions, notamment dans le domaine, je reprends le domaine de l'enseignement à distance. Je crois que là, il y a des évolutions, en fait, à soutenir. Et ça se passe, évidemment, il faut des moyens. Peut-être qu'il faut aussi arriver à permettre aux collègues, à toute la communauté, là c'est vraiment un travail, je dirais, mental, à les convaincre de la nécessité d'évoluer. Hein, il y a tout cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. C'est jamais facile de faire évoluer une communauté universitaire. Ça prend du temps. Mais je pense que les différentes évolutions qui ont eu lieu depuis quelques années peuvent permettre d'espérer qu'à terme, parce qu'on n'aura pas le choix, je pense que dans les 5 ans, les 10 ans à venir, il faudra vraiment que l'enseignement évolue fortement pour des tas de raisons. Il faut arriver à emmener avec nous les différentes communautés d'enseignants et de chercheurs.
Je vais être très provocateur, nous n'avons aucun avenir. En tout cas, si nos institutions restent ce qu'elles sont, et ce que je viens d'entendre le confirme, elles n'ont aucun avenir telles qu'elles sont. Elles sont destinées à s'ouvrir, à être de plus en plus poreuses et surtout à rester, à abandonner les défenses de territoire. Nous ne pourrons pas continuer avec le numérique à défendre des territoires physiques alors que le numérique les casse en permanence. Il faudra avoir aussi pour tous le souci non seulement de former nos publics, mais de donner l'accès à tous. Et ça, c'est un des défis, car nous risquons, effectivement, même avec le numérique, de continuer à rester sur nos précarés. Et là, on louperait, je pense, ce que le numérique est en train de nous préparer. Et les exemples d'Afrique, en particulier du Nord récent, montrent que les gens n'ont pas attendu qu'une institution donne l'ordre pour aller voir ce qui se passe dans le monde à travers Internet et de l'utiliser pour des évolutions sociales.
Françoise.
Là, je rejoins le fait qu'effectivement, je pense que pour être encore vivant demain, c'est de jouer aussi la carte des complémentarités et du partenariat, c'est évident. Ne pas oublier, alors là je parle de formation tout au long de la vie en plus avec le volet enseignement supérieur, donc qui s'appuie quand même sur des laboratoires performants parce que l'un va avec l'autre. Puisque pour faire vraiment de la formation de haut niveau, il faut quand même se nourrir de la recherche et que malgré tout, on est dans un champ concurrentiel. C'est un marché. Il ne faut pas l'oublier, la formation tout au long de la vie, c'est un marché. Donc, quelque part, on est dans la contradiction où, effectivement, mission de service public qui est dans un marché, que le meilleur gagne. Donc, c'est de se doter des moyens nécessaires pour être les meilleurs. Et c'est évident qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, elle est pas que entre grandes institutions. Hein. Elle est de l'ouverture avec les entreprises, de l'ouverture avec, parfois, certains diraient, le monde privé. c'est pas un vilain mot, hein, c'est véritablement un mixte de tout ça, puisqu'en fait, l'objectif, et là, c'est quand même de mener notre mission. Et il y a des évolutions. Notre objectif premier, c'est quand même de se dire que la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de ma vie, je peux reprendre une formation, me perfectionner, etc., ça doit être ouvert. Et donc, ça peut être avec de multiples acteurs.
Bernard.
Avec ses 72 ans, le CNED fait tout jeune à côté du CNAM et de l'Université de Poitiers. Mais en fait, cette question du passage, au fond, d'une tradition bien établie à un futur encore très instable est une question qui est centrale pour nous. Le CNED, c'était encore il y a quelques années le royaume du papier. Le CNED, c'était l'un des plus gros imprimeurs de France. C'était l'un des plus gros clients de la Poste. Le CNED a une plateforme d'accueil téléphonique qui peut répondre à 10 000 appels par jour sans que les gens attendent plus de 50 secondes. Bref, une logistique papier, si j'ose dire, et téléphone extrêmement solide. Et voilà que d'un seul coup, il faut passer à l'époque du numérique. Mais l'erreur serait de dire « transformons le papier en numérique ». Je crois que ce n'est pas du tout là qu'est la question. Et c'est un des pièges, d'ailleurs, pour le CNED. C'est une des difficultés. Passer d'une forte tradition d'un savoir imprimé sur papier et envoyé avec des timbres poste à un savoir qui prend une toute autre forme, un tout autre aspect. Je disais tout à l'heure que dans les thèmes de travail de la direction d'innovation, nous en avons un sur la mobilité. Nous en avons un également qui s'appelle « Convergence papier numérique ». Dont l'objectif est justement de se dire, attention, le papier existe encore, mais le papier se transforme, le papier est appelé à se numériser, mais le papier est aussi appelé à cohabiter avec le numérique. Il nous faut inventer les nouveaux supports, les nouvelles manières dont cohabitent le papier et le numérique. Je disais également, de plus en plus, ce sont les services qui sont numériques. Les produits peuvent être sous différentes formes. Aller vers des services numériques, c'est un enjeu considérable. Au fond, service, convergence papier numérique, ça nous oblige à repenser, je disais tout à l'heure, il faut repenser la pédagogie d'hier, Bruno le disait très bien, ne marchera pas dans la technologie de demain. Nous devons repenser la pédagogie, et j'irai même un peu plus loin, nous devons repenser les savoirs. C'est une illusion de penser que les savoirs bien établis de nos dictionnaires et de nos programmes scolaires répondent désormais aux grandes questions du XXIe siècle. On ne trouve pas dans ces savoirs-là la réponse à ces questions. Il nous faut réorganiser le savoir, repenser le savoir, parce que le savoir de l'époque numérique n'est pas le même. Pour le CNED, les enjeux sont là. Les enjeux sont du côté des savoirs, du côté des services, du côté du papier et du numérique. Et au fond, la clé pour entrer dans tout ça, c'est de se centrer sur l'usager, sur les usages. Le CNED d'autrefois déposer son savoir sur du papier et le distribuer. C'est plus du tout de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous avons besoin de se centrer sur les usages, sur l'usager. C'est pour ça que nous avons mis en place un Living Lab et d'être prêt à des transformations profondes. C'est pour ça, comme le rappelle souvent Sébastien Brunet, qui est responsable de notre Living Lab, c'est de l'innovation de rupture dont nous avons besoin. C'est pas d'un doux passage du passé vers le futur.
Merci. Alors, je propose de donner la parole à Jean-Michel et de terminer par Muriel qui s'avançait. Mais comme ça fera une belle figure géométrique puisque celle qui a commencé terminera.
Oui, donc moi, je vais prendre un exemple concret par rapport à l'avenir. Mais c'est un petit peu ce que disait Bernard Cornu. L'importance aujourd'hui des besoins des usagers et des services qui répondent à ces besoins, c'est certainement un des enjeux les plus importants. Très concrètement, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des lieux physiques, des centres départementaux, des centres régionaux, qui sont des lieux d'accompagnement, où on fait à la fois de la formation, où il y a une librairie, où on vend des ouvrages, où on vend du numérique, et il y a aussi donc salle de formation, librairie et médiathèque, où on prête des ouvrages. Bon, et bien ces lieux-là, aujourd'hui, sont forcément interrogés. Évidemment, les compétences des personnes qui sont dans ces lieux-là sont aussi interrogées. Eh bien, à nous, aujourd'hui, d'apporter une réponse aux demandes, aux besoins. Et le besoin des utilisateurs par rapport aux technologies de l'information et de la communication, il est toujours très, 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 très présent. Tous les rapports, les uns après les autres, nationaux, nous disent qu'il n'y a pas une évolution tangible des pratiques pédagogiques liées à la révolution du numérique. Il se passe quelque chose, ce transfert entre une évolution rapide au niveau des technologies et une évolution lente, ça a été dit tout à l'heure, des pratiques pédagogiques, ce transfert ne se fait pas aussi rapidement. Il y a un problème chez nous, on n'arrive pas à faire ça. On s'aperçoit dans les études de besoin, quand on fait des études, que les enseignants, dans un établissement scolaire, ont besoin d'une aide, et d'une aide rapide, qui correspond à une demande ponctuelle, et une réponse quelquefois humaine sur le lieu, sur l'établissement. D'autres fois, une réponse sur un système informatique, sur un service numérique sera tout à fait suffisante. Quelquefois, la visioconférence à 2-3 établissements sera la bonne réponse. À nous d'inventer aujourd'hui tous les services. Il faut être aujourd'hui multiservices qui vont répondre à différents besoins avec des besoins qui doivent être identifiés de plus en plus précisément au niveau de l'établissement scolaire. L'enjeu, il est là. On est en train de le relever petit à petit. J'étais au mois de juin à une conférence où tous les responsables de médiathèques du réseau étaient présents. Le concept de learning center, c'est-à-dire de lieu ouvert sur l'apprentissage où on trouve des partenaires très différents autour des problématiques de pratique pédagogique, a été longuement débattu. Chaque personne du réseau, justement, est aujourd'hui en train d'évoluer, de faire évoluer les compétences. Nous sommes là exactement pour aller vers ces évolutions-là. Donc, je suis assez optimiste aussi.
Je suis vraiment fils de petite jeune, ça fait bien plaisir. puisque effectivement 3 ans d'existence de la Cité des Savoirs, mais 4 mois de présence pour moi. Mais je voudrais juste terminer par une note quand même positive, c'est-à-dire que depuis ces 4 mois de présence, je vois en tout cas que ce besoin en partage, complémentarité, aller de l'avant, trouver des pistes d'innovation, créer une grosse émulation autour de la Cité des Savoirs, de l'ensemble de ses membres. On répond en ce moment en appel à projet pour l'Agence nationale pour la recherche qui intéresse aussi l'inspection d'académie, qui intéresse des gens comme SFR qui s'occupent aussi de contenu sur ces tablettes, qui intéresse des gens comme Microsoft, qui intéresse des éditeurs comme Nathan. Je le vois aussi au niveau des réseaux d'entreprises. Je suis de plus en plus... interpellées par des entreprises qui ont envie de voir quels axes elles pourraient développer autour de ces thématiques. Donc voilà, pour avoir une note d'optimiste, et le tout pour tout type de public, ça aussi c'est important, public en difficulté, public handicap, voilà, donc tout ceci en tout cas se sent très très fortement autour de la Cité des Savoirs.
Merci beaucoup mesdames et messieurs de cette ouverture qui n'a pas été que formelle et c'était vraiment très intéressant. On va, avant de faire une pause, avoir 2 brèves interventions de complément pour présenter et ouvrir cette semaine. Quelques éléments complémentaires sur le programme pour que vous compreniez bien ce qui va se passer et aussi et peut-être surtout comment cela va se passer. Et puis, une dernière intervention avant la pause concernant l'application que 3 étudiants, mais je vais les appeler tout à l'heure ici, pour qu'ils se présentent et qu'ils présentent leur application, les 3 étudiants qui ont développé l'application pour smartphone qui peut être utilisée toute la semaine pour participer à distance à notre manifestation. Guylaine Lefebvre du département IME va me rejoindre. C'est elle qui a organisé le campus d'été et comme elle ne va pas rester avec nous toute la semaine, quand elle aura terminé, je vous proposerai par anticipation de la féliciter, de la remercier. En tout cas, moi, je le fais parce que je sais tout le travail qu'elle a fait depuis des mois et qui nous permet d'être tous là aujourd'hui. Quelques indications générales avant de lui laisser la parole. Vous l'avez déjà vu, notre programme est un petit peu complexe. Parce qu'il articule des lieux différents, donc vous allez vous déplacer, vous allez avoir des indications pour cela tout de suite, et puis articule aussi des modalités d'intervention différentes, donc de classiques conférences, enfin je ne dis pas que le contenu est classique, mais la modalité d'intervention, oui, des ateliers très centrés utilisateurs, hein. Il a été question à plusieurs reprises de nos 2 Living Labs, celui du CNED et celui et Wolf de la Cité des Savoirs, et vous allez participer à une session de travail de ces Living Labs qui va être une session très participative. Guylaine va vous en dire 2 mots également. L'organisateur est dans la salle, il a été cité tout à l'heure, Sébastien, il est là-bas. Une chose aussi très importante dans ces lieux, c'est que nous ne pouvons pas imaginer une démarche réflexive sur les usages éducatifs des technologies sans penser à la dimension culturelle au sens des pratiques culturelles qui s'y associent. Et chaque année, l'espace Modest France,
Bon, j'ai dit qu'il était un partenaire historique fidèle et actif, je le répète, organise cet aspect culturel, en particulier avec Patrick qui est dans la salle aussi, Patrick Tréguer, et qui vous propose, qui nous propose une programmation qui décoiffe, voilà le mot, qui décoiffe. Donc j'espère qu'elle nous décoiffera autant cette année que les années passées. En tout cas, c'est toujours un moment important dans l'organisation et particulièrement agréable. Voilà, je laisse la parole à Guylaine pour apporter des précisions et je la remercie de tout le travail qu'elle a fait. Et tu viens là.
Mais bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore eu le temps de rencontrer. Donc, quelques détails qui n'en sont pas concernant la logistique de cette semaine, puisqu'en effet, elle est complexe. On fait un campus sur le nomadisme, donc on vous rend nomade de façon forcée, puisque chaque jour, on changera de lieu. Donc aujourd'hui, bon, je suis ravie de voir que vous avez pu trouver l'espace Mondes France et que vous y plairez là toute la journée. On viendra vendredi, pour la journée de vendredi. Concernant les aspects donc logistiques, hein, c'est bon. Nous organisons bien sûr des pauses café, là, on pourra bénéficier tout à l'heure. Les pauses déjeuner sont libres, donc ça sera l'occasion pour vous de vous balader dans le coin pour vous restaurer. En centre-ville, c'est assez facile, il y a toujours à proximité un restaurant universitaire, en l'occurrence le restaurant universitaire Roche d'Argent, ce midi, qui sera juste en face. Et puis, chaque jour, vous aurez un lieu de restauration pas très loin, on ne vous accompagnera pas, mais vous pourrez trouver des informations sur internet ou en nous demandant où est-ce que vous pouvez déjeuner. La journée de demain aura lieu à la MSHS, la Maison des sciences de l'homme et de la société, qui est située sur le campus universitaire. En tout cas, ce lieu, vous pouvez le rallier facilement avec les bus Vitalis, les lignes régulières de Vitalis. Et puis, vous pourrez vous restaurer au restaurant universitaire Champlain, juste à côté. Et puis pour les deux journées qui sont organisées en dehors du centre-ville de Poitiers, à savoir la journée de mercredi et la journée de jeudi, qui ont lieu respectivement au CNED et au CNAM, nous avons mis en place une navette, Vitalis également, mais qui est réservée pour vous. Et là, je vous demanderai de bien prendre note des horaires et des lieux de rendez-vous, puisque si vous n'êtes pas là, la navette partira. Donc les journées de mercredi et jeudi, la navette départ à 8h. Du campus universitaire Maison des étudiants. Et ensuite, elle s'arrêtera à l'arrêt de bus Confort Moderne, qui est en haut du faubourg du Pont-Neuf. Et elle fera également un deuxième arrêt, Porte de Paris, l'arrêt de bus Vitalis, qui est situé au tout début de l'avenue de Paris. Donc ça vous permettra de relier rapidement le site du Futuroscope, puisque les liaisons bus sont un peu longues. Et donc, ça vous assure d'être sur le site frais et dispo à 8h30, 9h. Donc, bien sûr, je vous invite à bien tenir compte de ces horaires. 8h, maison des étudiants, et puis 8h, confort moderne, 8h, porte de Paris. Vous patienterez la navette qui vous prendra en chemin. Pour la journée du mercredi, on organise également des ateliers qui nous obligent à scinder ce groupe en plusieurs petits groupes. Et donc la journée de mercredi commencera un peu plus tôt, à 8h30, et on profitera de l'horaire matinal pour vous répartir en groupe. Donc il faudra s'inscrire sur des feuilles, je suppose, qui seront à disposition dans le hall. Donc avant de commencer ce campus d'été, merci de venir bien en avance pour organiser les ateliers de la matinée. La journée du mercredi également se terminera un peu plus tôt que d'habitude, puisque la navette retour repartira du site du Futuroscope du CNED à 16h pour vous ramener dans le centre-ville de Poitiers. Et nous vous conseillons, pour terminer la journée, mais là c'est complètement libre, une visite de Poitiers, pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour rester dans le thème du nomadisme, l'Office du tourisme propose des visites audio-guidées, gratuites. Vous pouvez télécharger un fichier MP3, le mettre sur votre baladeur et visiter de façon libre la ville de Poitiers, qui, à mon avis, mérite un coup d'œil. Mais ce n'est qu'une suggestion, il n'y a aucune obligation. Vous êtes bien sûr libre de faire ce qui vous plaît. Ensuite, la journée du jeudi a lieu au CNAM, donc la navette matinale, mêmes horaires, même lieu. se déroulera également toute la journée sur le site du Futuroscope. Et nous prévoyons une navette retour le soir, le jeudi soir, à 18h. Le spectacle prévu donc à l'Espace Mendès France le jeudi soir, donc là en centre-ville, est prévu à 20h30. Donc bien sûr, on vous y attend ici un petit peu avant. Et puis le temps fort de la semaine qui va vous mettre aussi à contribution, c'est bien sûr le Barcamp qui est organisé le vendredi matin par les Living Labs. Et là, en termes logistiques, ça nous impose également un peu de préparation. Et c'est pourquoi nous avons mis en place sur ce site, le site du C2E, vous avez un onglet tout en haut qui s'appelle Barcamp, qui décrit un peu l'organisation de la matinée, mais surtout une formalité qui n'en est pas qu'une, c'est l'inscription à ce Barcamp, qui est obligatoire pour tous les participants, notamment l'inscription implique que vous décriviez un peu les thèmes que vous souhaiteriez aborder. Donc merci de le faire très tôt dans la semaine, aujourd'hui ou demain, pour permettre aux équipes qui s'occupent du Barcamp de l'organiser concrètement pour vendredi matin. Merci.
Merci beaucoup, Guylaine. Alors, pour terminer, je vais inviter ici, alors là, il faut que je lise, ce sont des noms pas simples à lire. Je vais inviter sur scène Michael Drost, j'espère que je n'écorche pas vos noms de famille, Romain Lenzotti et Vincent Hong, qui doivent être, on m'a dit, derrière le rideau là-bas. Et qui vont se présenter, bien sûr, mais qui sont trois étudiants de l'UTEC qui ont développé pour nous l'application pour smartphone qui permet donc de suivre la manifestation. Et c'est aussi une autre forme de collaboration entre deux universités grâce à l'entremise d'une collègue maître de conférence en informatique, Assina El-Keshaï, qui doit aussi être quelque part dans la salle. Donc, moi, j'ai deux questions. Alors, merci beaucoup d'abord d'avoir fait ce développement pour nous. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est une question relative à ce développement, décrire un tout petit peu le contexte dans lequel vous avez travaillé, les difficultés que vous avez rencontrées. Enfin, ce n'est pas une soutenance de projet, bien évidemment, non plus. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a été plusieurs à souligner l'importance de prendre l'avis des usagers et, par exemple, pour nous, à l'université, des étudiants sur leurs conditions de mobilité. Et donc, c'est aussi une belle occasion pour commencer cette semaine d'avoir votre avis et votre témoignage sur votre propre mobilité d'étudiant et comment est-ce que ces technologies pourraient peut-être vous aider à être encore plus de meilleurs étudiants. Voilà, à qui est-ce que je passe la parole ?
Alors, bonjour à tous. Alors, comme on vous l'a dit, nous sommes des étudiants du CFA UTEC à Emerainville, en Seine-et-Marne, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, dans le cadre de notre formation pour un master de l'ingénierie de l'informatique, nous avons eu un projet de la part de Guylaine Lefebvre pour la réalisation d'une application sur tout ce qui est les événements du C2E. Donc, tout ce qui est la navigation de l'utilisateur afin de rechercher les événements et de savoir se guider au cours de cette grande manifestation. Donc, pour cela, nous étions quatre collaborateurs. Donc, il nous en manque un. On l'avons perdu en chemin pour réaliser l'application et tout ce qui est la gestion de projet attachée derrière, sachant que nous avions tout à réaliser, de la gestion des documents, l'étude des cahiers des charges, des besoins et des spécifications détaillées. Nous avons prévu l'application sur tout ce qui est les smartphones et autres tablettes PC actuellement sur le marché. Donc nous visons pas principalement iPhone ni Android, mais tous les autres, bien évidemment. Aucun n'est délaissé. Et pour vous parler de l'application, je vais vous laisser place à deux autres de mes collaborateurs.
Donc, bonjour. Nous avons fait cette application à partir des technologies du web. Très classiquement, qui sont basés sur HTML5 et PHP et CSS, et vous pourrez donc les voir sur n'importe quel smartphone. Actuellement, j'ai fait donc passer la tablette à vos collègues, aux conférenciers, afin qu'ils puissent voir directement l'application. Vous pouvez faire de même sur votre smartphone à l'adresse de c2e-poitiers.com/phone. Alors, je ne sais pas si on a... Vous avez effectivement l'adresse ici, à l'écran. Et donc, si on peut faire rapidement une démonstration, s'il vous plaît. Donc, au programme de cette application, vous avez aussi une fonctionnalité de géolocalisation qui vous permettra de vous repérer au niveau du campus et aussi de pouvoir vous déplacer en temps réel. Donc, allez, vas-y, Vincent.
Donc, ça, c'est l'interface du menu principal. Donc, bonjour à tous. Donc, là, sur la page principale, nous avons le menu qui nous permet d'accéder aux différents éléments donc, de notre application. Donc, la principale étant le menu pour les événements, qui nous permet de lister les conférences. Donc, voici, là, nous avons donc, l'accès aux différentes conférences, aux différents événements, tout du moins sur le C2E. Donc, avec des informations d'abord principales. En cliquant sur un événement, on accède à des informations plus détaillées. Donc voici donc la page principale avec les données sur l'événement, en redonnant des liens vers les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn, et aussi pour accéder à une messagerie instantanée. Nous avons les horaires de l'événement, ainsi que les intervenants. Ensuite, on peut accéder à une localisation pour savoir exactement où se situe l'événement. Donc, bon, nous avions localisé le campus de Poitiers. Donc les événements peuvent se dérouler forcément soit dans le campus ou en extérieur. Donc là, en l'occurrence, il a été positionné ici. Donc en partageant notre localisation, on peut accéder justement à l'itinéraire pour le rejoindre. Je ne sais pas si on peut charger. Donc là, vous voyez, on voit qu'on est justement dessus avec notre position. Nous avons également un onglet galerie qui nous permet de rajouter des photos sur un événement. Donc là, on n'en a pas. Mais... Donc, ensuite, donc là, vous pouvez voir toutes les autres événements qu'il y aura pour les séances à suivre. Dans le menu, nous avons également donc, la localisation. Le restaurant, c'est les points de restauration les plus proches pour... le midi ou la pause, comme vous voulez. On peut rajouter des documents. Des documents, donc, soit... Donc, on n'aura pas ici, vous pouvez documenter des documents photo, des documents Word ou Excel. C'est vrai que le temps de chargement est un petit peu long, désolé. Donc voilà, par exemple, on a deux photos. On peut avoir plus de détails sur la galerie. Photos qui ont été prises tout à l'heure pendant la présentation des représentants. Ouais. Je vais le remettre directement. Bien entendu, ce que je vous montre depuis l'ordinateur est faisable depuis les mobiles, les smartphones et tablettes. Donc, nous avons également donc, la liste des conférenciers. Donc, les personnes qui présentent ces événements pour lesquels on peut avoir des informations supplémentaires également.
Enfin, bon, visiblement, le Wi-Fi a l'air un peu saturé par tout le monde qui est connecté dessus. Nous nous en excusons. Mais pour tous ceux qui souhaitent parcourir l'application et s'en servir ou l'utiliser ou ne serait-ce que se renseigner, donc vous êtes invités à vous connecter sur l'interface c2epoitiers.com/phone et amusez-vous avec l'application qui est destinée à votre utilisation. Voilà.
Merci beaucoup et de la présentation et de la réalisation. Et vraiment, là, en quelques mots, parce que l'heure est arrivée de la pause, mais vraiment en quelques mots, chacun d'entre vous, comment est-ce que vous vivez la mobilité? Est-ce qu'un étudiant, c'est mobile? Et est-ce que finalement, cette question, elle vous parle, entre guillemets, à vous, des applications mobiles nécessaires aux apprenants?
Alors, dans notre cas, on vit effectivement avec la mobilité, puisque tous les jours, on est amené à développer et à travailler avec les appareils mobiles comme l'iPhone, l'iPad et nos ordinateurs portables pour développer ce genre de projet. Voilà.
Bon, la mobilité, ce n'est pas non plus une notion matérielle ou autre, c'est aussi bien sûr le déplacement de la personne. Tout étudiant n'habite pas sur son logement d'études, quel que soit, il a forcément besoin de se déplacer. Et certains doivent se déplacer de plus en plus loin, surtout nous dans la région parisienne où on a souvent 1 heure voire 2 heures de transport pour aller dans notre lieu d'enseignement. Des outils prévus pour les périodes de mobilité peuvent être intéressantes à exploiter afin d'approfondir notre formation.
Donc moi pour ma part je dirais que oui, la mobilité est essentielle pour actuellement. Car ça nous permet d'accéder facilement et sans déplacement à toute source d'information. Par contre, je pense qu'il est quand même primordial de toujours garder à l'esprit que le déplacement, en effet, est essentiel pour pouvoir continuer de se former. D'un point de vue déjà sur l'aspect, je trouve, social, qui est beaucoup plus humain et beaucoup plus, enfin, physiquement, avoir un entretien toujours, un contact direct avec les personnes. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus perdre de vue. Cependant, bah, bien entendu, c'est vrai que la mobilité, elle nous avantage quand même sur beaucoup d'éléments. Là-dessus, je pense que moi, c'est, en ce qui me concerne, c'est là-dessus que je m'arrêterai. Je ne suis pas un virtuose de la langue de Molière. Merci. Et merci de nous avoir accueillis.
Alors, merci à vous et bravo. Voilà, eh bien, nous allons faire une pause et remercier tous ceux qui sont intervenus. Ceci dit, la pause n'est pas tout à fait pour tous, puisque je vais demander à tous les étudiants, à tous nos étudiants, c'est-à-dire les étudiants du Master Ingénierie des médias pour l'éducation, qu'ils soient Euromim ou pas Euromim, de rester dans la salle pendant la pause. Les autres vont aller prendre un café et nous, on va travailler un peu. Non, on va se présenter parce que tous les étudiants ne se connaissent pas. Ça va être rapide. Et avec le décalage, le petit retard pris, je vous propose de nous retrouver ici à 11h15 pour la conférence d'ouverture.